Soyez les bienvenus sur Radio Grand Air. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Grand Air, votre web radio en pays foyen sur radiograndair.fr.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chut, on écoute la télé. Avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale, porte de la Dordogne, à Cresse. Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut en écoute la télé, l'hebdo sur Radio Grand Air. Vous nous écoutez chaque lundi à 18h partout en France sur radiograndair.fr. Pendant une heure, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Et ça tombe bien, tout de suite, voici le sommaire.
On est vraiment bien sans elle. I just
haven't met you yet. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de votre émission Chut, on écoute la télé aujourd'hui, nous allons consacrer une large partie de notre émission au lancement de la série de TF1 Je te promets avec la productrice Aline Panel et Hugo Becker qui seront nos invités exceptionnels. Nous aurons le plaisir de recevoir également aujourd'hui pour le téléfilm La fille dans les bois qui sera diffusé mercredi soir sur France 2 Mathilde Mufang, la productrice, et Carolina Jurzak également qui joue le rôle de Jeanne. Arthur Dupont viendra nous parler du deuxième épisode des Petits Meurtres d'Agatha Christie dit après le carton de vendredi dernier, eh bien Arthur Dupont sera avec nous. Et puis nous terminerons l'émission avec Julie Zenati, elle vient de sortir un nouvel album Refaire danser les fleurs, nous en parlerons avec elle. Et on va démarrer cette émission aujourd'hui, on vous l'avait promis, par un hommage à Rémi Julienne qu'on avait eu le bonheur de recevoir dans notre émission. Je peux vous dire qu'on se lasse pas de l'écouter. Et juste après les top et flop d'audience, eh bien on va lui rendre hommage dans Chut on écoute la télé.
Les top et flops d'audience.
Dans les audiences de la semaine dernière, on commence par lundi dernier. C'est Sam qui arrive en tête avec 4 480 000 téléspectateurs et 21,1% de part de marché. Sandales blanches sur France 2 sont à 3 081 000. Il y avait Alexandra L sur France 3 mardi. C'est un très beau score avec 4 367 000 téléspectateurs. Legacy sur M6, le film de Yann Arthus-Bertrand, fait 2 443 000 et 11,1%. Il y avait Disparition inquiétante mercredi sur France 2 avec un épisode inédit. C'est largement devant Doc avec 4 295 000 téléspectateurs. Doc sur TF1 fait 3 988 000. Le retour de Section de recherche sur TF1 était couronné de succès jeudi dernier avec plus de 6 millions de téléspectateurs et 25,4% de part de marché. Et puis vendredi, c'est le gros carton des Petits Meurtres d'Agatha Christie avec 5 692 000 téléspectateurs et 24,6% de part de marché. Presque le double des touristes sur TF1 avec 2 947 000. Et puis samedi, il y avait Meurtre à Belle-Île sur France 3, 5 308 000, largement devant la finale de Ninja Warrior qui fait 4 068 000 téléspectateurs. Et on va donc tout de suite rendre hommage à Rémi Julienne. On avait eu le bonheur de l'accueillir dans notre émission. Je vous propose tout de suite d'en réécouter un extrait.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Rémi Julienne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Demain, Festival de la Baule, 4e édition, qui va rendre hommage au métier du cascadeur que vous êtes. Rémi Julienne, est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez aujourd'hui de ce métier dans les tournages, dans le cinéma ?
On n'en parle jamais assez, hein. Il faut en parler, il faut savoir qui on est, ce qu'on fait. Alors maintenant, les projecteurs sont assez souvent braqués sur moi, et puis je trouve que c'est assez injuste parce qu'on ne parle pas des gens qui sont avec moi. Et moi, si je n'ai pas ces gens-là, des gens exceptionnels dont on ne parle jamais, les hommes de l'ombre, eh bien, je trouve pas ça normal.
La cascade dans la famille Julienne, c'est vraiment une histoire de famille et d'équipe.
Exactement, c'est ça. C'est une équipe, c'est une famille. Et j'ai des gens extraordinaires et il faut les montrer parce que eux sont capables de donner véritablement le bon exemple. Et là, c'est mon but maintenant.
Est-ce que vous avez numéroté le nombre de cascades que vous avez pu régler et avoir à préparer dans votre carrière ?
Écoutez, non, parce que j'ai pas noté tout ça. Mais par contre, en 50 ans de carrière, j'ai mon nom à plus de 1400 génériques de films. Alors là, combien d'accidents, je peux pas dire, mais sur ma carte de visite, je pourrais indiquer quand même négociant en accident. Oui.
Rémi, est-ce qu'il y a un film où vous avez réglé des cascades dont vous êtes le plus fier? Après celui, je vous demandais tout à l'heure, qui vous avait donné des sueurs froides.
Oui, ça c'est important. Hein. Ce qui compte, c'est vraiment le résultat à l'écran. Hein. Tout le reste, c'est de la littérature.
Parce que c'est tellement millimétré, on se rend pas compte, mais c'est cadré au mètre près, c'est millimétré les cascades que vous préparez.
Ah ben non seulement au mètre et au millimètre, mais c'est à la fraction de seconde. Hein. Vous savez, quand on est dans des vitesses de 80, souvent c'est 80, 110, 120 km à l'heure. Donc ça veut dire que on frôle un petit peu les 40 ou 40 mètres par seconde parcourue. Donc s'il y a une fraction, s'il y a, si vous voulez, un dixième de seconde, quelquefois, ça veut dire au résultat 2 mètres. Et 2 mètres, c'est beaucoup trop. Sinon, là, on casse sa pipe. Donc il faut véritablement pas se tromper. Mais pour répondre à votre question, véritablement, l'un des films, enfin l'un, parce qu'il y en a, beaucoup, hein, mais entre autres dans les 17 synopsis que j'ai écrit déjà dans le but d'en faire de l'image, ça, il y en a un, c'est peut-être La Menace avec Alain Corneau et Yves Montand, Carole Laure, et donc qui m'a donné beaucoup de fil à retordre, c'est-à-dire précipiter un camion citerne dans un ravin, enfin un précipice qui avait 400 mètres de dénivellation, et pour précipiter un camion citerne américain, c'était en Colombie-Britannique, ça, à 90 km à l'heure, il fallait, dans un virage, aller tout droit et sauter avec un camion qui explose quand même à la sortie du tremplin, parce qu'il y a un fil électrique qui établit un contact et il y a 200 litres d'essence, de carburant, dans la cabine du camion. Alors il fallait passer d'abord les quatre premières vitesses assis dans la cabine du camion, et après il fallait se déporter sur une conduite additionnelle qu'il y avait à partir du marchepied du camion, parce que évidemment quand j'engageais dans un chemin avec des troncs d'arbres énormes, hein, il fallait pas louper le truc, sinon c'était la cata et moi je sautais avec, donc c'était pas du tout plaisant ça à maîtriser, hein. Donc je me mettais sur le côté, il y avait mon fils Michel qui conduisait un pick-up où il y avait un bâti en ferraille, en tube, et un filet de pêcheur. Alors, et vraiment au dernier moment, j'avais vraiment une fraction de seconde pour sauter et m'accrocher comme une araignée dans sa toile, vous voyez. Et alors le camion arrivait, coupait le fil d'alimentation, et là, parce que c'était Montand qui devait disparaître et on ne devait plus jamais le retrouver. Donc au pistolet, il avait tiré dans le camion citerne qui allait donc exploser, et alors il était censé disparaître à ce moment-là.
Voilà, on s'en lasse pas, on l'écouterait pendant des heures. Rémi, qui a été emporté donc par le Covid à l'âge de 90 ans, quand on pense à toutes les fois où il a frôlé la mort dans ses cascades, on pense évidemment à Justine et toute sa famille, tous ses proches. Voilà, merci en tout cas de nous suivre dans Chut, on écoute la télé. Dans un instant, notre spécial, je te promets, La Fille dans les Bois, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie et Julie Zenati. Alors à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
Hey, toi, peux-tu me dire pourquoi j'ai si peur dès que j'inspire?
Hey, toi, sais-tu prédire ce qu'est l'avenir?
Hé, hey, toi, peux-tu convenir à mesure que sur la corde on tire?
Hé, hey, toi, peux-tu décrire ce qu'il y a de pire?
Tu cries mais c'est pas moi, tu fais n'importe quoi, tu te perds dans des blabla.
Mais ça veut rien dire.
Tu dis je sais pas moi, mais tu peux faire un choix. Regarde autour de toi. Dessinons ensemble une armée.
quoi tu aspires? Hey, toi, peux-tu me dire quand vas-tu enfin intervenir? Hey, toi, rien ne t'oblige à nous affaiblir. Tu cries mais c'est pas moi, tu fais n'importe quoi.
Télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à Je te promets qui démarre ce soir sur TF1, la série événement évidemment que l'on attendait tous, c'est l'adaptation française de la série This Is Us dont moi je suis particulièrement fan en plus. Et ça tombe bien puisqu'on a sa productrice Aline Panel qui est avec nous. Bonjour Aline.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous Aline, c'est un beau cadeau je crois aux fans de This Is Us que tu vas faire là, en proposant cette adaptation française très réussie. Moi j'ai pu voir déjà des épisodes en avant-première et franchement, quelle série émouvante encore une fois.
Merci.
C'est un rendez-vous, je dirais sur 12 épisodes là qui va se faire. Comment tu as eu l'idée d'adapter la série américaine This Is Us? Est-ce que toi t'étais fan déjà de cette série à la base?
Je l'ai découverte par hasard. Et elle a eu un impact très fort dans ma vie personnelle à ce moment-là, qui j'ai traversé des preuves familiales précisément. Et voilà, c'est pas une idée que j'ai eue, c'est une nécessité en fait de parler de la famille. C'est universel, donc ils le font tellement bien que pourquoi ne pas essayer de le faire de cette façon-là, mais à la française, avec une famille française et des acteurs français.
Tu peux nous expliquer, Aline, comment ça se passe pour arriver à obtenir les droits d'adaptation comme ça d'une série américaine? Est-ce que tu as pu rencontrer Dan Fogelman, par exemple, qui s'occupe et qui a créé cette série?
Non, à l'époque, en fait, j'ai approché des commerciaux, je dirais, de la Fox qui était basée à Paris. Et ça s'est passé comme ça. Mais bien sûr, après, toute ma proposition artistique est remontée au producteur de la série américaine. Je sais pas s'il y a un protocole particulier pour obtenir des droits d'adaptation. Moi, j'ai fait au feeling et voilà. Après, on m'a dirigée vers les bonnes personnes. Surtout quand je les ai rencontrées au départ, c'était pas du tout d'actualité en fait la vente de droits d'adaptation. Donc, on a eu une discussion très intéressante sur le fond et je pense qu'ils ont pu se rendre compte que je maîtrisais le sujet et que j'avais vraiment une envie très sincère de faire cette série pour la France, hein, qui n'était pas juste de l'ordre de l'opportunisme, je dirais, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la série la plus regardée aux États-Unis, hein, donc évidemment. Donc ils m'ont recontacté et nous avons poursuivi nos discussions. J'étais pas seule à ce moment-là sur les rangs et donc j'ai participé à une sorte de compétition, si vous voulez. Et puis sur une proposition financière, bien sûr.
Et oui, évidemment. Autre cadeau que tu nous fais, évidemment, c'est de venir tourner une partie de l'histoire dans notre région de Nouvelle-Aquitaine, du côté de la Charente-Maritime. Ça, c'est un vrai cadeau, une volonté de délocaliser effectivement une partie de la production en province.
Ah oui, c'était vraiment, ça faisait partie du projet éditorial hein, d'ancrer cette série dans la France. Et donc, évidemment, pas que dans Paris. Raconter aussi comment s'organise la géographie française. Et c'est vrai que cette bipolarité, je dirais Paris-Province, qui est vraiment une particularité française, je voulais en jouer. Je cherchais des paysages qui changent un peu des paysages maritimes qu'on voit dans toutes les séries françaises, qui sont la plupart du temps la Méditerranée. Et j'avais déjà une expérience, comme tu sais, en Nouvelle-Aquitaine, qui s'était vraiment super bien passée, un beau partenariat. Donc, on a creusé ça et puis ça s'est naturellement porté sur les Charentes-Maritimes, ces paysages qui sont très préservés. Et puis aussi très esthétique et nostalgique avec la mer qui se retire, les couchers de soleil, etc., qui sont de l'ordre un petit peu aussi de ce qu'on raconte par rapport au passé. Donc c'est toute la partie passée qu'on y a mis là-bas.
Alors on va avoir Hugo Becker qui va nous rejoindre d'ici quelques instants justement puisqu'on va parler du personnage de Paul. Mais comment tu as fait pour choisir tes comédiens? Est-ce que tu as regardé longuement? Est-ce que tu as essayé de les choisir en fonction de la ressemblance aussi des personnages avec la série originale?
Non, alors bon, je sais pas, peut-être que ça va paraître un peu naïf parce que c'est vrai qu'en fin de compte ils ont des traits communs, mais ça n'a pas du tout été un critère de choix. Le critère ça a été de trouver des acteurs qui incarnent parfaitement le personnage tel qu'il était écrit dans nos scénarios à nous.
Aline, pour ceux qui n'ont pas vu la série américaine ou qui n'en ont jamais entendu parler, comment on peut donner un pitch, comment on peut établir l'histoire de base?
Ah ben, peut-être qu'on peut partir du titre tout simplement, ça s'appelle Je te promets en France. Je te promets d'abord parce que c'est la chanson de Johnny, qui est un chanteur qui a marqué les 40 dernières années de la France, que ma grand-mère connaissait, que ma petite fille connaît et qui nous réunit de génération en génération. Et je te promets, je dirais, c'est la promesse qu'on fait à ces bébés quand ils naissent, de leur donner vraiment le meilleur de nous-mêmes. Et malgré tout, sans vouloir, on leur transmet aussi beaucoup de nos blessures avec lesquelles ils doivent se construire en tant qu'adultes. C'est aussi, nous, dans notre version française, la promesse du fameux 10 mai 1980, puisque la série démarre à ce moment-là, et de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, donc la promesse un peu plus politique, je dirais, d'un monde meilleur. Et du coup, à travers cette série, une proposition faite au public de revenir un peu sur nos 40 dernières années et avec nostalgie et joie, de retransposer dans ce que nous avons vécu, nous, le public qui sommes de cette génération.
C'est une histoire de fratrie, c'est une histoire de famille à la fois, c'est une histoire de transmission. Il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués dans cette série.
Oui, c'est avant tout le concept, c'est la famille. Hein. C'est pour ça que ce concept, il est universel et avec des valeurs, je dirais, très positives. Et c'est ça qui comptait pour moi. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est par des temps qui courent très important de parler comme ça des liens qui nous rassemblent et de ce qu'on peut faire de positif autour de nous, surtout dans ces périodes de confinement où justement les familles se resserrent et peuvent s'épauler, peuvent voilà faire preuve de bienveillance, de générosité pour avancer coûte que coûte.
Eh bien, on va suivre avec intérêt en tout cas les destins de Paul, Florence et en parallèle de Maud, Mathis et Mickaël. C'est nos nouveaux héros qui vont débarquer ce soir sur TF1. Un petit mot sur Sam qui vient de se terminer, que tu produis aussi, Aline. Je crois avec de très belles audiences et évidemment, je pense, une saison 6 qui se profile à l'horizon.
Oui, la saison 6 est largement déjà bien avancée en écriture. Et elle se tournera à partir du 15 avril en région parisienne, mais plus loin, à la campagne. Sam va partir enseigner dans un contexte, un milieu différent, rural.
Sam se met au vert.
Elle se met au vert et elle nous parle aussi de notre époque et de nos questionnements par rapport à nos modes de vie.
Je te promets, en tout cas, c'est ce soir sur TF1 avec la belle bande-son, évidemment, de la chanson de Johnny. Ça aussi, c'est un beau cadeau et un beau clin d'œil. Et on va retrouver juste après la bande-annonce, eh ben, Hugo Becker qui sera notre invité pour parler du personnage de Paul. À bientôt, Aline. Merci d'avoir été avec nous.
Au revoir, Alain.
Allez,
à bientôt.
À très vite. Merci.
J'ai toujours voulu le meilleur pour mes enfants.
Avec une voix aiguë qui nous fait peur.
Mais quelle voix aiguë?
Celle-là.
Tous ensemble, hein, heureux, en bonne santé, ce cadeau-là, vous pouvez me l'offrir jusqu'à mes 120 ans.
En route vers l'aventure.
Tu vas faire de grandes choses.
Comment j'ai fait pour en arriver là?
Mickaël, c'est toi la star de la famille. Non, j'aurais été la star si t'avais pas été là.
J'adore cette famille.
Et ça y est, c'est le lancement de la tant attendue série Je te promets sur TF1. Et là, c'est un grand moment pour tous les fans de la série This Is Us et qui ont pu eh bien la voir sur les chaînes du groupe M6 par exemple. Et on a de la chance aujourd'hui puisqu'on a le rôle de Paul, c'est Hugo Becker qui est avec nous. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Une adaptation, c'est jamais facile, mais une série comme This Is Us, s'imprégner de cet univers, c'est absolument fou et un pari fou qu'ont osé Aline Besson et Isabelle Drong dans cette adaptation qu'ils ont baptisée Je te promets. Est-ce que toi, tu avais vu la série originale avant de tourner? Comment tu as procédé pour rentrer dans ce rôle de Paul?
Bien sûr, la série originale est très réussie. C'est des raisons pour lesquelles j'avais très envie de faire ce rôle-là, parce que je pense qu'il y a peu de rôles aussi riches pour un acteur de traverser différentes époques et puis en fait toute une vie d'émotions. Donc forcément, pour un acteur, c'est passionnant à jouer. Passionnant. Et ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le fait C'est-à-dire que adapter une série américaine, si c'est un thriller par exemple, ou si c'est quelque chose où l'histoire finalement va simplement être refaite exactement de la même manière, ça a peu d'intérêt. On va pas se mentir.
C'est vrai.
Et là, l'idée était justement de faire quelque chose qui ait du sens. Alors je m'explique, mais on parle d'une famille. On parle d'une famille dans un pays. Et donc d'une culture en fait. Et je trouvais que pour cette raison-là, en fait, cette série peut être adaptée dans plein de pays. Parce que ce qui est intéressant, c'est de quelle façon cette famille a grandi, comment elle a grandi, dans quel pays elle a grandi, avec quelle valeur, avec quelle culture, avec quelle personnalité publique, par exemple, du pays. Enfin, c'est tout un univers, la famille. C'est tout un univers, mais qui finalement s'inscrit toujours dans une époque et dans un contexte social, économique et culturel. Donc, je trouvais que ça avait beaucoup de sens de le faire en France, parce qu'il y avait vraiment possibilité d'enrichir, entre guillemets, en tout cas, d'apporter une autre lecture qui soit intéressante pour le téléspectateur français. On a quand même forcément pas les mêmes références culturelles. Si je vous parle musicalement ou cinématographiquement ou en termes de télévision, de publicité qu'on a vu quand on était enfant.
Pays, oui.
Et en famille, toutes ces choses-là, elles nous marquent parce qu'on vit avec, on en rit, on s'en amuse, on partage des moments, que ce soit des compétitions sportives, que ce soit des concerts, que ce soit... Donc tout ça, je trouvais que ça permettait du coup de raconter l'histoire de cette famille à la française. Voilà.
Alors, c'est l'histoire de Paul et Florence qui mettent au monde des triplés le jour de l'anniversaire de Paul.
C'est ça.
Ce qui fait que tout le monde naît le même jour, évidemment, et le jour de ses 37 ans.
C'est ça.
Toi, t'es en fait notre Milo Ventimiglia, nous, en quelque sorte.
Ouais, je sais pas, on a essayé quand même de faire les choses à notre façon. Après, c'est aux gens d'en décider, c'est pas à moi en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que ce personnage de Paul Gallo, c'était quelque chose d'assez passionnant à jouer.
Vraiment. Et l'immersion dans les années 90 ?
Bah pour toutes ces raisons-là, effectivement, pour les années 90, pour tout ce que ça représente en termes de mémoire collective. De mémoire collective qu'on a tous en nous. C'est ce que je te disais, ce que je disais un peu avant, mais on pense forcément à ses parents. Moi, je pense forcément à mes parents. Je pense forcément à mes frères et sœurs. Je pense forcément à mes cousins. Enfin, tous les moments qu'on a pu passer, que ce soit en vacances, que ce soit... Et toutes ces choses-là qui nous ont marqué, hein, qui nous forgent en fait, qui font ce qu'on est aujourd'hui. Et je trouve que dans cette série, il y a énormément de moments auxquels on peut s'identifier.
Mais parce que toi, t'as tourné que dans cette époque-là.
Moi, je tourne que dans le passé.
Voilà.
Mais je tourne quand même dans plusieurs périodes du passé.
Oui, oui, tout à fait.
Donc je tourne quand même à trois époques différentes.
Mm-hmm.
Donc on est dans les années 70, les années 90, les années 80. Donc il y a matière, quoi. Il y a matière. Je pense qu'aux costumes, ils se sont beaucoup amusés, quoi. Aux costumes, dans les décors également. C'est quand même, c'est des époques qui nous font un peu rêver tous. Donc moi, j'étais ravi aussi d'aller dans cette série pour ces raisons-là. Et je trouve que aussi parce que cette série s'intéresse et met en parallèle plusieurs époques, ça a d'autant plus de sens en fait d'en faire une adaptation française. Parce que nos années 80 en France, les années 80, c'était quelque chose.
Bien sûr.
C'était un truc de fou, on va pas se mentir. C'était les années 70 aussi, les années 90, c'était encore autre chose, mais c'était des époques marquantes. Je pense qu'elles sont vraiment très différentes des années 80 ou des années 90 américaines. C'est pas la même chose. C'est évident que c'est pas la même chose. Il y a des choses qui ont marqué, qui ont traversé les frontières, etc., et d'autres pas. À l'époque, il y avait quand même pas mal de musique, des droits musicaux qui étaient rachetés de musique américaine parce qu'elles n'étaient pas très connues en France et on en faisait des adaptations. Donc, tout ça, c'est quand même amusant.
Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui ressort avec Camille du tournage? Parce que vous avez tourné intégralement en Charente-Maritime pour le coup. Donc est-ce que tu as un souvenir précis des décors que la Charente-Maritime a pu offrir dans notre région?
J'ai beaucoup de souvenirs de ce tournage. En fait, c'est une série où on ne tourne que les moments très forts et marquants, en tout cas dans la période du passé, d'une famille. Donc tous les moments forts, en fait chaque scène était intéressante. Là je peux vous parler d'une course de traîneau dans la neige. On s'est retrouvé quand même à créer de la neige, de la fausse neige hein, évidemment, mais dans une forêt de pins. Je me rappelle très bien de ce jour-là, on était tous très impressionnés parce que tout ça avait l'air extrêmement réel alors que c'était complètement surréaliste. Et on a fait une course de traîneau, donc on était habillés en tenue d'hiver complet alors que c'était l'été, donc c'était quand même particulier. Et quand on voit le rendu de ces scènes-là, c'est assez fou quand même, hein, ce qu'on est capable de faire et de fabriquer et de faire croire à quoi, de faire croire à... Enfin, c'est la magie du truc.
Du cinéma hein, et de la télévision.
Exactement.
C'est vrai.
Mais quand vraiment la série se prête à ça et à des époques, etc., et à des décors tel que ça, c'est quand même très plaisant. Alors, un exemple, c'était effectivement cette scène de traîneau qu'on a fait un paquet de fois où les traîneaux se cassaient, on portait les enfants sur des valises, on traînait les valises dans la neige, on faisait des courses. On a beaucoup ri pour les scènes et puis en dehors des scènes. Et effectivement, c'était un peu compliqué à tourner parce que comme on le faisait vraiment, c'était pas truqué, bah ça se cassait de temps en temps quoi, ça fonctionnait pas. Donc c'était assez, ça c'était c'était un souvenir assez sympa.
Eh bien, on va retrouver cette série avec Camille Lou, Marie-Lou Berry, Guillaume Labbé, bien sûr, et toi, Hugo. Merci d'avoir été avec nous pour en parler.
Merci à vous.
Voilà,
merci
ça beaucoup. Démarre maintenant sur TF1. Donc, on est très heureux, en tout cas, de retrouver cette adaptation qu'on va découvrir. Je te promets, sur TF1. Merci, Hugo. À bientôt.
Merci beaucoup.
Et on se quitte avec la bande-annonce.
J'ai toujours voulu le meilleur pour mes enfants. Tous ensemble, heureux, en bonne santé.
J'ai retrouvé mon père biologique.
Qu'est-ce que tu fais? Tu le ramènes à la maison?
Je sais pas pourquoi je fais ça.
Nos enfants, ils sont géniaux.
Route vers l'aventure!
Comment j'ai fait pour en arriver là?
Maud, t'es la personne la plus importante de ma vie.
Je suis là si t'as besoin. Ah, j'ai toujours été là.
Vous allez adorer les rencontrer. Je te promets, votre nouvelle série, bientôt sur TF1.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé consacré à La Fille dans les Bois, le téléfilm inédit de France 2 qui sera diffusé mercredi soir avec sa productrice Mathilde Mufang qui est avec nous. Bonjour Mathilde.
Bonjour Alain.
Merci.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Mathilde. On va recevoir Carolina Jurzac également dans un instant qui est l'interprète de Jeanne dans ce très beau téléfilm. Une nouvelle adaptation pour toi Mathilde après Une mère sous influence. On a eu l'occasion de te recevoir pour ce téléfilm avec Julie Debona et Caroline Anglade. Eh bien c'est une nouvelle adaptation d'un roman de Patricia MacDonald que tu nous proposes mercredi.
Exactement. D'ailleurs en fait c'est pas que le deuxième, en fait c'est le quatrième. Parce que auparavant, j'avais également acquis les droits d'adaptation de J'ai épousé un inconnu et aussi du poids des mensonges. En fait, là, à nouveau, avec La fille dans les bois, ce que j'aime beaucoup, moi, chez Patricia MacDonald, c'est qu'elle raconte toujours des histoires assez étonnantes, extraordinaires et surprenantes, mais dans un contexte extrêmement quotidien, banal dans le bon sens du terme, c'est-à-dire proche de nous, dans le sens que c'est toujours des histoires qui se passent à un niveau très intimiste, où ça concerne des gens et leur entourage proche, c'est-à-dire leur famille, leurs amis, leurs amours. Et donc, même si ce qui se passe est assez étonnant, en fait, on peut tous nous identifier à ce qui nous est raconté. Là, par exemple, il s'agit de l'histoire de Jeanne qui rentre, parce que sa sœur est en train de mourir d'un cancer. Et sur son lit de mort, sa sœur qui a donc 30 ans, Jeanne en a que 27, sa sœur lui apprend qu'en fait, il y a 15 ans, elle a menti, elle a refusé de fournir un alibi à quelqu'un qui était accusé de meurtre alors qu'il était innocent et elle ne lui a pas donné l'alibi. Il est donc en prison pour un crime qu'il n'a pas commis depuis 15 ans.
Eh oui.
Donc, on voit bien le drame, c'est-à-dire qu'évidemment, ça paraît tout à fait extraordinaire, mais sa sœur la supplie évidemment de faire sortir de prison.
Elle lui fait promettre avant de mourir, effectivement, de trouver le coupable et c'est toute une enquête qui attend notre héroïne, Jeanne, et qui va devoir essayer de faire la lumière sur toute cette vérité dans une ambiance des fois un peu, alors soit délétère, mais aussi en même temps avec beaucoup de secrets inavoués parmi les personnages. Hein.
Oui, parce que bien sûr, tout ça, bah, ça convoque des secrets de famille, des secrets de cette région. Et puis, ça convoque aussi beaucoup la culpabilité. C'est-à-dire que Jeanne, elle est partie, elle déteste ce lieu où elle a grandi et elle a un peu abandonné tous les gens qui étaient ses proches. Et là, maintenant, elle ne peut plus s'enfuir. Donc, ça convoque effectivement un souci de justice, la culpabilité, le besoin de vérité. Et ça, c'est des choses qui sont totalement universelles.
Et franchement, Antoine Duléry, il est incroyable. Il nous ferait presque flipper hein, dans ce film, hein, dans le rôle d'Éric. Hein.
Oui, bah, c'est-à-dire que nous, on a un vrai méchant. C'est-à-dire qu'elle a un oncle. Une des raisons pour lesquelles elle est partie, c'est parce qu'elle a été élevée par son oncle, qu'elle déteste. Elle et sa sœur étaient orphelines, et donc c'est leur oncle qui les a recueillis. Mais c'est vraiment un type aigri, en colère, amer. Et,
facho.
Et elle le déteste, ouais. Exactement.
Il a tous les défauts, presque.
Voilà. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'était très intéressant de prendre un comédien, on va dire, qui n'est pas dans ce registre-là habituellement. Bien sûr qu'il peut tout faire, Antoine, mais on le connaît beaucoup pour sa bonhomie, son sens de la comédie.
Ah, on est loin de Gatineau, là.
Il est dans un registre... enfin, ouais, tout à fait. Là, il est dans un registre totalement différent et il est formidable.
Ah oui, c'est clair. Il fait vraiment flipper. Non, mais tous les personnages sont vraiment chouettes. Alors, pourquoi t'as choisi cette région Auvergne-Rhône-Alpes aussi?
Alors, déjà dans le roman, c'était une région de petites montagnes.
D'accord.
Donc, on voulait en effet avoir cette beauté parce que le paysage fait partie. C'est un des éléments, ça s'appelle pas pour rien La Fille dans les Bois. Ça se passe dans ces forêts, dans ces petites montagnes. Et donc, on voulait être fidèle à ça parce qu'il y a aussi un côté reculé. Des régions dans lesquelles on parvient pas dans les villages très facilement. Ça tourne vite, c'est difficile d'accès. Donc, il y a un côté un peu reclus, mais en même temps, c'est pas tout le côté, les pistes de ski, les stations, c'est pas cette ambiance-là. Et donc, en fait, assez vite, on s'est dit que l'Auvergne, enfin, soit l'Ardèche pouvait être. En gros, il y avait la Drôme ou l'Ardèche qui étaient un peu les deux endroits qui nous paraissaient les mieux adaptés. En Ardèche, on a trouvé des endroits sublimes. Et donc, ça a été intégralement tourné là-bas avec beaucoup de bonheur, même si c'était pendant le deuxième confinement, donc un peu compliqué. Mais quand même, on a trouvé des paysages et des décors superbes.
Et oui, comment t'as fait là pour le coup pour pouvoir arriver à tourner aussi vite, monter aussi vite et pouvoir le diffuser comme ça là aussi vite? Faut savoir qu'il y a 4 mois, le film était en tournage quoi, clairement.
Exactement, oui, on a tourné en gros mi-octobre à mi-novembre. Ben, on a eu la chance parce que dans notre malheur, même malgré le deuxième confinement, on avait quand même le droit de continuer à tourner.
Oui.
Donc c'était un peu compliqué, il y avait le couvre-feu hein, pour les comédiens, tout ça. Tout le monde mangeait dans sa chambre le soir à l'hôtel, c'était pas évident, mais bon, on s'en est tous très bien sortis, il n'y a pas eu de malade. Donc sur l'équipe, hein, dans l'équipe des comédiens, puis tout le monde s'est bien porté, on a été chanceux. Et après, ben c'est vrai que toujours en télévision, le montage commence pendant le tournage. Là, ça a été le cas et on a été assez vite. Et en fait, on a eu la bonne surprise que France 2 était vraiment contente du film et ils nous ont dit quand on l'a eu fini à début de janvier, ils nous ont dit on va le diffuser très vite. Donc on est ravis de retrouver finalement toute cette énergie qui nous a porté entre la préparation, le tournage, le montage et hop la diffusion. Donc, c'est une belle énergie qui nous porte et qui nous rend heureux.
Eh bien, on va la découvrir, ce film, mercredi sur France 2, juste après Un si grand soleil, La fille dans les bois, à 21h10. On va recevoir Carolina Jurzac d'ici un tout petit instant, juste après un petit extrait. Mathilde, merci d'avoir été avec nous et on te dit à très bientôt.
Merci, merci, à bientôt.
Et à bientôt.
On t'a pas appris à fermer la porte chez les Niakoué?
Bonjour, Eric.
Mais ça te dérange pas d'arriver quand on n'a plus besoin de toi?
Quoi, elle est...
Vivante, t'as du bol. Parce que tu crois que ta sœur est encore capable de monter l'escalier?
Bonjour, Jeanne. Eh ben, moi, c'est Daniel. Je suis enclée de vous parler de moi. Je m'occupais de Céline. À l'hôpital, à Privas, en soins palliatifs, ces 3 derniers mois. Un vrai cheveu de sœur. Alors bon, quand les médecins ont baissé les bras, ben, je suis venue avec elle. Je suis d'ici. Ah, mon frère, vous le connaissez sûrement, Joseph Ballast. Jo. Le Jo, quoi?
Oui, le conducteur de bus, oui.
Voilà.
Et bien voilà, de retour après la bande-annonce. Et puis Mathilde a cédé sa place à Carolina Jurzac qui est donc avec nous. Bonjour Carolina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc tu joues le rôle de Jeanne, Carolina. Voilà, on a eu l'occasion de se rencontrer à La Rochelle où tu as eu d'ailleurs le prix du meilleur jeune espoir féminin dans nos contrées de Nouvelle-Aquitaine.
Ouais.
Et puis on a eu l'occasion de se rencontrer au Cap d'Agde aussi au Festival des Héros du Cinéma, je précise quand même, hein, pour que nos auditeurs ne se méprennent pas. Mais là, on va te découvrir dans La fille dans les bois. C'est mercredi, un vrai beau téléfilm. On a planté un peu le décor avec Mathilde et on va s'attarder un peu plus sur Jeanne avec toi, Carolina. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans le rôle de ce personnage?
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Jeanne, c'est son côté têtu, loyal, et puis qui est prêt à combattre tout, envers et contre tout, et qui est vraiment quelqu'un d'hyper résilient et de fort. Et je trouvais que c'était intéressant de raconter ce personnage-là, tout en ayant un contexte tout autour d'elle, en fait, qui n'est pas hyper favorable. Mais quand bien même, elle va tout faire pour respecter les dernières volontés de sa sœur. Donc, je trouve que c'est une hyper belle motivation.
Elle retrouve sa sœur dans des conditions tragiques, hein, d'ailleurs, là.
Oui, un peu, oui. C'est pas super rigolo, quoi. Elle est partie il y a 10 ans et elle revient dans sa petite province natale. Et elle revient, en fait, au chevet de sa sœur qui est sur le point de mourir, qui va lui faire une révélation sur son lit de mort. C'est là où elle va se dire, OK, en fait, il faut absolument que je respecte cette promesse parce que je lui dois ça et que je suis quelqu'un de loyal et que ça devient quelque chose d'une quête, en fait, hyper importante dans cette partie de sa vie. Et ça m'a beaucoup plu. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est aussi l'histoire d'un retour. Et je trouve que c'est joli aussi à raconter à quel point parfois c'est compliqué de quitter un endroit, certes, mais c'est encore plus compliqué d'y revenir avec ses souvenirs, avec son enfance, avec ses origines, ses racines, tout ça. Et c'est pas toujours évident de se réapproprier en fait un endroit qu'on connaît déjà. Et je trouvais ça assez joli en fait ce rapport-là aussi aux choses et au temps et aux gens, à quel point on change, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et ouais, voilà.
Et elle va retrouver cet oncle qu'elle n'aime pas vraiment quand même, faut dire, parce qu'il est vraiment très très particulier hein, quand même. Hein, Antoine Duléry, il est incroyable, oui, dans ce rôle. Hein.
Non, mais ce qui est génial en fait, c'est qu'on connaît tous Antoine très drôle, et c'est sa nature, enfin, c'est quelqu'un de
super
joyeux, de généreux et tout ça.
Et quand même, il ne faut pas oublier que ça reste un acteur et qui a toutes ses classes et qui est capable aussi de jouer autre chose en fait que ce dans quoi on a l'habitude de le voir. Je pense que c'était hyper intéressant pour lui d'explorer ce truc-là. Et c'est surtout, on s'est tous hyper amusés à faire peur, à être méchants, à travailler tous les deux surtout, parce que c'est une histoire qui se crée aussi à deux, avec mon oncle et Antoine et Jeanne. C'est drôle de dire en fait à quel point on s'est chamaillé tout autant qu'on a ri sur le plateau et qu'on s'est amusé à le faire et avec toute cette bienveillance et ce côté heureux d'un plateau. Voilà.
Alors Jeanne, elle va trouver un allié assez inattendu, un journaliste qu'elle a connu dans sa jeunesse, qui est joué par Mathieu Spinozzi, que les fans de Clem reconnaîtront bien évidemment. Donc donc là aussi, elle va trouver cet allié pour tenter de l'aider à découvrir la vérité, parce que c'est aussi une quête de vérité finalement aussi ce film.
Exactement. Et non seulement voilà ce qu'on racontait, c'est une demande en fait de loyauté, mais c'est aussi effectivement une quête de vérité pour respecter ses dernières volontés et puis aussi pour trouver la réalité, pour apaiser en fait quelque part les souvenirs qui hantent, et pouvoir continuer à vivre de manière apaisée. Et je crois que c'est aussi une belle histoire en fait qui se raconte au travers justement de cette quête de vérité. C'était drôle de faire ça justement avec Mathieu, avec qui on se chamaille beaucoup aussi dans le téléfilm, et parce qu'on se connaît depuis un moment, et donc c'était assez drôle de se retrouver après plusieurs années, alors que moi je jouais quelqu'un qui revenait après plusieurs années. Je trouvais que le parallèle était assez drôle.
Bon, Carolina, est-ce qu'il y a d'autres projets pour la suite? Est-ce qu'on va te voir dans d'autres choses peut-être en 2021 qui ont été tournées?
Alors, on va voir aussi la petite semaine de Philippe Faucon qui passe la même semaine sur France 2 aussi avec Lucas. Bah, c'est drôle qu'on en parle justement. Et puis je suis aussi dans les petits meurtres d'Agatha Christie, ce qui passe maintenant dans les années 70. Mais ça, je ne sais pas encore quand est-ce que ça va passer.
C'était quel épisode? C'était le troisième, quatrième, ceux qui viennent d'être tournés là peut-être?
Ouais, exactement.
Alors on le découvrira à la rentrée, ceux-là. Va falloir attendre qu'ils soient montés et on les découvrira à la rentrée. Effectivement.
Ah là là, vous avez mieux que moi en fait.
Bah oui, parce qu'il y a Arthur Dupont qui va prendre ta suite dans pas longtemps, donc oui.
Ah, drôle. Ah, super. Ah, j'adore.
Bon, on t'embrasse, Carolina. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on n'oublie pas, La fille dans les bois, c'est mercredi. C'est à 21h10, juste après Un si grand soleil sur France 2. On ne le rate pas. Très beau téléfilm à découvrir et produit par Mathilde Mufang et mis en scène brillamment par Marie-Hélène Copti. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et on va tout de suite écouter, eh bien, un autre petit extrait, rien que pour vous. À bientôt, Carolina.
À bientôt.
Faut que je te dise quelque chose d'autre. Tu te souviens de Youssef? Youssef Alaoui.
Comment veux-tu que j'oublie? Quoi? Il a été libéré?
C'était pas lui. C'est pas lui qui a tué Julie.
Tu délires complètement, là, Céline.
Écoute-moi. Il a dit aux flics que j'étais avec lui cette nuit-là. J'étais son alibi. Son seul alibi. Et j'ai juré que c'était pas vrai. J'ai dit que je le connaissais même. Il a pris perpète. J'ai foutu sa vie en l'air. Il l'a pas tué.
Allez, coup de cœur télé consacré au petit meurtre d'Agatha Christie. Ils ont fait leur retour. C'était vendredi dernier dans une toute nouvelle mouture, celle des années 70, avec un tout nouveau trio de choc qu'on a pu découvrir. Vous pouvez revoir d'ailleurs le premier épisode sur francetv.fr. Et vous allez découvrir un deuxième épisode inédit, vendredi soir à 21h05, des petits meurtres d'Agatha Christie à Chambre Noire, avec Arthur Dupont, ce coup-ci, qui est notre invité. Bonjour mon cher Arthur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis content de t'avoir avec nous. On a eu l'occasion de se rencontrer pour la sortie du film Ma famille t'adore déjà, qui avait été tourné sur l'île de Ré, dans notre belle région, un film de Jérôme Commandeur. Et puis là, te voilà en Max Beretta.
Ouais.
Une belle aventure. Là aussi, une troisième saison pour les petits meurtres d'Agatha Christie. On change tout, on change d'époque, mais on garde un peu les mêmes ingrédients qui font, bien sûr, la recette du succès de cette série.
Hein. Ouais, exactement. C'est un nouveau trio. Toujours avec un ton décalé, avec des enquêtes à mener, et avec le côté 70 qui donne un aspect et une esthétique plus pop, un peu plus rugueuse et plus musclée par moment, et plus bande dessinée, ouais.
Ça, ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça doit être sympa de s'imprégner du ton de ces années 70, très coloré, c'était l'époque disco, évidemment, donc on retrouve les pantalons à pattes d'eff, enfin, c'est plutôt sympa tout ça.
Ah oui, moi j'aime beaucoup, c'est très marqué comme époque. Visuellement, c'est très marqué. Et ça va aussi avec avec l'évolution du ton. C'est-à-dire qu'il y a, je sais que Sophie Révy, la productrice, a voulu amener un ton plus, un ton de comédie un petit peu plus débridé. C'est un peu moins policé que la saison 2.
Alors je dirais aussi que la thématique quand même aussi, c'est la place de la femme dans les années 70 qui est très à l'ordre du jour dans ces enquêtes, hein, depuis le premier épisode d'ailleurs, et dans deuxième ouais. Encore plus. Hein.
Ah bah oui, parce qu'en fait, là, ce qui est intéressant dans cette troisième saison, c'est que la place de la femme dans les années 70 était encore, on va dire, sous le voile du machisme, encore un peu, pas mal même.
Oui, beaucoup.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme qui arrive à la tête du commissariat, qui est jouée par Émilie Gavoacan, et qui va mettre une espèce de pavé dans la mare avec des hommes qui savent pas trop comment prendre ce nouveau cadre, cette nouvelle autorité venant d'une femme, et qui du coup sont là avec leurs certitudes et les mœurs de l'époque qui sont complètement secouées. Et là, dans ce second épisode, on est dans un magazine de mode avec plein de mannequins, et justement, la place de la femme objet à l'époque, et de toute façon, dans la mode, que ce soit dans les années 70 ou encore aujourd'hui, le corps de la femme est quand même un corps très objet. Il y a beaucoup de machisme. Et ça, pendant toute cette saison-là des années 70, ça va être une des thématiques très fortes.
Quel beau souvenir que tu garderas de ce tournage, justement, et des tournages à venir. Est-ce que c'est aussi se plonger dans ces années-là avec la ribambelle de costumes, les voitures, voilà, oui, qui vont dans la rue? C'est vraiment un mélange de bons souvenirs, tout ça.
En fait, c'est-à-dire que comme moi, je trouve que faire jouer la comédie, quand on est en plus dans un projet d'époque, c'est comme un enfant à qui on va dire, voilà, tu mets tel costume, tu prends le pistolet, puis tu vas là-bas, tu vas dans la voiture. Moi, franchement, depuis le début sur ce projet-là, tous les jours, j'ai les yeux écarquillés. Dès que j'ai découvert les décors, j'étais émerveillé parce qu'ils ont fait un travail de dingue à la décoration. C'est le chef de comptoir qui s'appelle Munji Couture.
Ouais.
Et c'est quelqu'un qui a fait un travail dingue. Sur 6000 mètres carrés, donc c'est un commissariat, une morgue, un hôtel, un appartement, et tout ça avec des détails dingues des années 70. Ils ont chiné plein d'objets, ils ont fait un travail fou. Et ça, en plus des costumes qui sont très 70, c'est-à-dire que moi, j'ai des pattes de fou, j'ai des bottines à talons, j'ai des pelles à tarte, j'ai des petits pulls col roulé hyper moulants. Tout ça nous amène dans une époque sans qu'on ait rien à faire. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur le plateau sans avoir encore été mis en scène et sans avoir encore dit une phrase, je suis déjà dans les années 70.
C'est ça qui est génial.
Et c'est ça, et ben c'est dingue parce qu'il n'y a pas grand chose, enfin, il n'y a pas grand chose à faire. Si, quand même, mais c'est un tel travail d'équipe, là, avec une exigence à chaque poste qui rend la chose magique. Au moment de l'action, c'est magique, quoi. On est là, on regarde à 360 autour de soi et on a plein de gens qui sont habillés en 70, et tout est tout à fait normal. Si on regarde sur la table sur laquelle on est assis, eh ben, il y a plein d'objets 70 patinés. On n'est pas dans un catalogue vintage.
C'est pas que pour un film, en plus, Arthur. C'est quand même 4 films par an, donc c'est encore plus chouette.
Films. Oui, ouais. C'est-à-dire que c'est 4 films par an et on sait pas pour combien d'années. Tout ça, c'est un investissement, pour parler concrètement, financier très très lourd pour Escazal, mais c'est ils ont tellement, enfin, Escazal, c'est la production, c'est Sophie Réville et Denis Caro, mais ils ont tellement envie de faire les choses bien et d'aller au bout de cette représentation de cette époque 70, mais ils ont voulu y aller à fond, et pour nous, comédiens, c'est un cadeau.
Et ils sont reconnus pour ça, d'ailleurs, tous les deux, Sophie et Denis, qu'on salue, bien évidemment, et on connaît leur professionnalisme, justement, aussi, sur ces petits meurtres. Il y a encore une bonne vingtaine, hein, je crois, de romans adaptés, donc il y a encore de quoi s'amuser, j'en suis sûr. Arthur, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. On va découvrir donc ce deuxième épisode inédit, La Chambre Noire, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, saison 3, version, 70s, oui. Puis voilà, on te découvre, évidemment. Et puis il y a deux épisodes qui viennent d'être finis de tourner, qu'on découvrira aussi à la rentrée.
Exactement.
Donc ouais, voilà, ça fait partie des beaux projets aussi. À bientôt, La Chambre Noire, c'est vendredi à 21h05 sur France 2. À bientôt, Arthur. Merci.
Au revoir. Merci beaucoup.
Dans un instant, on termine l'émission avec Julie Zenati. Alors ne bougez pas. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite.
On en fait des erreurs dans ce monde qui crie.
On veut toucher la lune pour se mettre à l'abri.
On ne connaît même plus le nom de nos voisins.
Les mots doux, les je t'aime, ni les ciao pantins.
On a perdu l'amour dans les grandes métropoles. Je sais plus qui l'a dit, Jacques, Jean-Pierre ou Paul.
On va pas se laisser faire, non, c'est mal nous connaître.
On a bien appris sans pourquoi, sans peut-être.
Je te tiens, tu me tiens.
Celui qui donne a raison.
Je te tiens par la main.
Ce soir, on est à la maison.
Ici et maintenant, hier et maintenant.
D'avoir froid, ne l'oublie pas.
Et tant que ça dure, on restera là.
On pense à elle, on pense à lui, on pense à toi.
Non, c'est pas la même. Si tu t'en vas,
tu sais, les gens qui s'aiment
ne s'oublient pas.
On tient le coup,
on reste debout, peut-être un peu fou.
Mais on sait pourquoi.
Ici et maintenant, hier et maintenant, toujours et maintenant, enfoiré maintenant, demain et maintenant, hier et maintenant, entends les battements, enfoiré maintenant. Allez, 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 enfoiré maintenant.
Celui qui donne a raison.
Je te tiens par la main.
Ce soir on est à la maison.
Ici et maintenant, hier et maintenant, toujours et maintenant, enfoiré maintenant.
On écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, on avait promis de l'accueillir. On s'était parlé lors de la sortie du single Paisiblement Fou. Eh bien, elle est de retour avec nous, Julie Zenati, pour la sortie de son album Refaire danser les fleurs. Julie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et qu'on se retrouve. On l'avait promis. Eh bien voilà, on est là ensemble pour parler de la sortie de l'album. Il est sorti il y a, allez, même pas une dizaine de jours dans les bacs, et c'est un album qui fait du bien, un album positif, pop, coloré, et qui franchement, en ces temps perturbés, franchement, fait beaucoup de bien.
Oh bah c'est très gentil, merci beaucoup. Enfin, j'avais envie que cet album puisse être rassurant et mettre un peu de baume au cœur aux gens dans le quotidien qui est un petit peu difficile aujourd'hui, et je suis très contente que vous ayez perçu ça. En tout cas.
Alors c'est un album très pop et à la fois qui rappelle beaucoup de sonorités du début des années 80. On se retrouve évidemment pour ma génération dans cet album aussi. C'est ce que tu as voulu, je suppose.
Oui, tout à fait. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler ce disque il y a 2 ans, j'avais comme ça un besoin d'être rassurée, d'être coucounée, d'être un peu prise par la main. Et en fait, je me suis tout simplement lovée dans mes souvenirs d'enfance. Et dans mes souvenirs d'enfance, ma BO, bah, c'est Berger, c'est Gall, c'est Sanson, c'est Balavoine, parce que c'était la musique de mes parents, en fait. Et l'enfance, c'est le moment le plus doux où le champ des possibles est infini. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé à écrire et à composer ce disque, très naturellement, je me suis rapprochée de ces harmonies, de ces textures, et même un peu de cette écriture qui est plus, en même temps poétique, et on se sert de la poésie pour dire des choses. voilà, c'est venu d'abord de façon assez inconsciente et puis ensuite évidemment ça m'a un peu sauté aux yeux.
Que t'as collaboré avec qui pour préparer cet album au niveau écriture des chansons, pour la composition, voilà, quelles sont les personnes avec qui tu aimerais par exemple là maintenant remercier et citer?
Ah ben il y a plein de gens. Alors il y a ma douce Barbara Pravi qui est une auteure avec laquelle j'ai travaillé. Il y a Nino Vella, Rémi Lacroix, évidemment Da Silva et Fred Fortuny. Il y a Vincha qui a été mon binôme pour l'écriture. Oden qui est un artiste incroyable avec qui on a fait Comme un pirate en mer entre autres. Mon cher Alban Lico avec qui je fais un duo dans l'album. Et évidemment ma belle plume rose que je suis très fière d'avoir embarqué sur ce projet et qui vogue avec moi dans les paillettes et les confettis.
Ah oui, c'est bien dit, les paillettes pour Rose, tiens, beau jeu de mots. Des belles collaborations, effectivement, dans cet album, que l'on découvre donc dans les bacs depuis le 22 janvier, hein, je vous le rappelle, et que tu vas défendre sur scène, malgré les conditions en ce moment qui sont assez incroyables pour les artistes, mais tu vas défendre cet album le 4, donc ça sera jeudi prochain, que tu vas défendre cet album en string live, c'est la mode en ce moment, et c'est tellement bien.
Bah oui, c'est la mode. En fait, moi, j'ai vu ça sur Jennifer et puis Matt Pokora. J'ai trouvé ça super. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une parenthèse qui faisait du bien, qui nous permettait de sortir un peu de nos quatre murs, entre guillemets, du quotidien, de bon, bah voilà, il est 18h, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quelle série? Voilà, c'est aussi une façon de partager quelque chose en famille. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une parenthèse un peu chouette pour pouvoir présenter l'album, pour retrouver les gens. En plus, je vais pouvoir chatter avec eux. Il y a des gens que je vais voir sur des écrans. Donc, quelque part, je vais pouvoir les toucher, je vais pouvoir leur parler. Et j'ai envie de mettre un peu de couleur dans les salons qui voudront bien m'accueillir le 4 février à 20h.
Ouais, un partage si difficile en ce moment, voilà, pour les artistes, et on pense vraiment à tous les artistes et les difficultés que traverse la culture en ce moment. C'est pour ça qu'il faut la soutenir, la culture, hein. On vous encourage vraiment, oui, à pouvoir télécharger légalement, encore une fois, cet album, Refaire danser les fleurs, ou vous le procurer en physique dans les magasins culturels. On s'écoute un petit extrait de Refaire danser les fleurs, justement, le titre éponyme de l'album?
Allez, avec grand plaisir.
Allez, on s'écoute ça, on revient juste après avec Julie Zenati aujourd'hui dans Chez ton écoute la télé.
Faire danser les fleurs, je viens, pour moi quelques heures, c'est faire du bien, toujours la même, mais en couleur, des bacs, des flashbacks sous le piano, à babiller. Mon cœur qui palpite en duo, et dans ma tête y a du mélo. Si toi tu me dis que tu m'aimes, alors là, je t'aime autant, maintenant comme un goût d'hier, comme avant.
De retour avec Julie Zenati, notre invitée à l'occasion de la sortie de l'album Refaire danser les fleurs, un album pop coloré qui fait du bien en ce moment. Et puis Julie, qu'on retrouvera donc jeudi à 20h en string live pour présenter, eh bien, cet album en live. Et là, en ce moment, on en a bien besoin et c'est chouette de pouvoir faire partager ça aux internautes pour le coup. Alors, comment on fait si on veut pouvoir accéder au string live, Julie? Explique-nous tout.
Eh ben, on va acheter un petit billet sur Ticketmaster ou sur InLiveWith, qui est la plateforme en fait qui met en place ce concert en direct. Et puis, avec un petit ticket, bah, vous pouvez être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez recevoir un petit code, vous allez vous connecter à 20h. Et puis, vous pouvez me regarder ou de l'ordinateur, ou de la télé, ou bien du téléphone. Voilà, c'est pas compliqué. Ça a l'air d'être tout un monde, mais je vous assure, même moi, j'ai réussi à le faire, alors que je suis vraiment pas douée avec tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, en plus, il y a un super, entre guillemets, SAV, il y a quelqu'un qui est connecté tout du long pour aider les gens si jamais ils ont une galère de connexion, ce qui n'est absolument pas arrivé sur les deux concerts précédents qui ont été faits aussi par InLiveWith. Donc vraiment, voilà, n'hésitez plus, venez, je vous attends.
Exactement. Alors, pour revenir sur cet album, Refaire danser les fleurs, je sais que les collaborations, c'est très important pour toi de collaborer avec d'autres artistes. Ça avait été le cas sur Méditerranéenne avec Chimène Badi et bien d'autres aussi. Ça, c'est primordial pour toi.
Oui, moi j'aime le partage, c'est un peu ce pourquoi je fais aussi ce métier. Moi j'aime me faire des copains, j'aime qu'on partage ensemble notre passion musicale. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours aimé collaborer et plus que collaborer, voilà, pouvoir partager d'autres types de moments. Donc là j'ai la chance de pouvoir faire un duo avec Rose, j'ai la chance de pouvoir présenter Alban Lico qui est un jeune artiste qui a une voix incroyable avec qui on fait un duo aussi. Pour moi c'est important de travailler en équipe. Moi, je suis née dans une troupe avec Notre-Dame de Paris et c'est vrai que quand je suis toute seule, j'ai l'impression que tout ça n'a pas vraiment de sens.
Alors, je crois que pour le clip, pour le coup de Paisiblement Fou, tu as mis à contribution quand même quelqu'un qui t'est cher.
Mon mari. J'ai exploité mon mari pour le clip de Paisiblement Fou, comme j'ai exploité mon père pour le clip de Tout est plus pop. Oui, c'est un travail en famille. En plus, là, ça parlait du couple, etc. Et je trouvais ça cool de pouvoir le faire avec lui parce que forcément, on se connaît par cœur. Et moi, je suis pas comédienne, donc je suis pas forcément très à l'aise devant la caméra. Et le fait d'être avec lui, voilà, ça m'a permis d'être moi-même, même derrière la caméra, quoi. Donc, c'était un chouette moment, on a beaucoup rigolé.
Un beau clin d'œil en tout cas. Julie, tu vas choisir le prochain extrait qu'on va écouter maintenant dans cet album, Refaire danser les fleurs. Alors lequel tu as envie de choisir et pourquoi ?
Eh ben, j'ai envie d'écouter Rien de spécial, qui est le duo avec Rose. Pourquoi ? Parce que j'aime cette chanson-là, parce que elle a ce côté féminin que je voulais dans l'album, elle a ce côté second degré et aussi cette petite chose qui apporte de la légèreté au quotidien, de se dire que en fait, il y a pas besoin de poster 52 photos sur Instagram d'endroits incroyables pour faire croire qu'on existe. On peut aussi tout à fait s'octroyer le droit de larver toute une journée sur un canapé. Et en fait, ça sera pas grave, ça voudra pas dire qu'on est nul, ça voudra juste dire qu'on avait besoin de ce temps-là pour rêvasser, quoi.
Bon, on va l'écouter. Écoute ce duo avec Rose pour terminer. Et puis n'oubliez pas donc de réserver votre billet pour le stream live concert de Julie. Ça sera donc jeudi à 20h. Vous pouvez réserver évidemment votre billet dès maintenant. Donc voilà, pensez-y. Puis allez vous procurer l'album Refaire danser les fleurs. Dès maintenant aussi en téléchargement légal sur toutes les plateformes évidemment. Et puis aussi eh bien en physique dans tous les bons espaces culturels. Merci Julie et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Et à la prochaine. Et on s'écoute tout de suite eh bien ce nouvel extrait de l'album.
Rien de spécial, je suis juste à court d'idées géniales. Tissu de secours, rien d'infernal. L'ennui qui court, c'est d'un banal. Rien de spécial, ni contre, ni pour, ni bien, ni mal. Comme un bruit sourd, rien d'infernal. L'ennui qui court, et rien ne s'en va.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, eh bien nous aurons le plaisir de recevoir Maud Baker. Elle sera à l'affiche non seulement Demain nous appartient, mais également Les Mystères de la Chorale. Ça sera sur France 3. Nous reparlerons également de la série Je te promets et bien d'autres surprises encore qui vous attendent.
Radio Grand Air. Radio Grand Air.
Allez, n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé. Eh bien, c'est toute la semaine avec La Quotidienne à 10h20 et 16h20 sur Radio Grand Air. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chut, on écoute la télé. Téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous retrouve également lundi prochain à 18h pour la Grande Hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Radio Grand Air.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale, porte de la Dordogne, à Cresse.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.